France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse, ravioli, penne, linguine, rigatoni, spaghetti, macaroni, cannelloni, orecchiette, quel que soit leur nom ou leur forme, la seule évocation de ces pâtes italiennes met en appétit. Comment expliquer ce goût pour la pasta? Nous verrons quelle est leur vraie provenance, l'explorateur Marco Polo les a-t-il vraiment ramenés de Chine? Est-ce une légende ou un fait avéré? Comment bien les choisir? Comment bien les cuisiner? Les pâtes fraîches sont-elles meilleures que les pâtes sèches? Nous vous proposons également quelques savoureuses recettes pour ce midi ou pour ce soir. Et vous, comment aimez-vous les pâtes? Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie? Et surtout, quelles sont les recettes qui vous rendent complètement dingue? 01 45 24 7000, sans oublier l'appli Radio France. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebbi.
Vieni, vieni, entra.
Entre, viens travailler. Ici, on travaille. On fait les orecchiettes.
Les orecchiettes, donc c'est la spécialité d'ici, ça, c'est local.
Si. Allora.
Ça, c'est la pâte, faite à partir de la farine de blé dur et juste de l'eau chaude. On la laisse un peu reposer.
Très simple.
La mamma.
Je fais la maman qui montre à sa petite fille.
C'est exactement ça. Voilà, tu mets ton doigt dedans.
Et puis gira così.
Ah, et tu le retournes sur le pouce après. Et on mange toutes les deux?
Non, toute la famille mange avec nous. D'abord, on sert l'invité.
Oh, merci.
Extrait d'Échappée Belle en 2023. Bonjour Alba Pezzone.
Buongiorno.
Vous êtes autrice de livres de cuisine italienne. Vous avez notamment publié chez Hachette Cuisine In Cucina, mes plus belles recettes italiennes. Et votre chef-d'œuvre, un très beau livre qui s'appelle Recettes secrètes des palais italiens. Bonjour Daniel Jerkens.
Bonjour Ali.
Directrice de la rédaction du mensuel Elle à Table. À la une ce mois-ci, un spécial Italie avec en couverture une superbe photo de Caponata à la Sicilienne et Tortiglioni. Hier, j'ai bossé l'émission, je l'ai écrite, j'avais le ventre creux et j'avais ce numéro sous les yeux. C'était une petite torture. Bonjour Eric Birloise.
Bonjour Ali.
Ingénieur agronome de formation, sociologue de l'alimentation et consultant indépendant. On vous doit chez Quae, petite et grande histoire des céréales et légumes secs. Bonjour professeur Boris Ancel.
Bonjour Ali.
Vous êtes endocrinologue, nutritionniste à l'hôpital Bichat à Paris. On vous doit notamment la chaîne YouTube PUMS pour une meilleure santé, et vous venez de publier Manger l'esprit léger, libérez-vous des diktats alimentaires chez Michel Lafon. Et vous nous direz notamment si les pâtes font grimper ou non la glycémie et si elles font grossir. Alors autour de la table, une question très simple. Pourquoi aimez-vous les pâtes? Alba Pezzone, vous écrivez dans votre livre In Cucina que les pâtes sont inscrites dans votre patrimoine génétique.
Bah oui, je suis napolitaine, donc forcément les pâtes. Bah, j'aime bien parce que c'est toujours dans mon placard, parce que si un invité arrive à l'improviste, eh bah c'est des pâtes, et parce que c'est à la fois simple et créatif.
Et c'est tellement inscrit dans votre patrimoine génétique que quand vous plongez les pâtes dans l'eau en ébullition, il y a un compte à rebours silencieux qui débute en vous.
Hein? Et puis le souvenir de la grand-mère, hein, oui, qui était catégorique. Lorsque les pâtes étaient cuites et qu'on les égouttait, oui, c'était à
c'est-à-dire
table.
Qu'on mettait pas de
c'était,
chrono, vous.
Ah non. Surtout que on dit de moi que j'aime les pâtes vertes, c'est-à-dire vraiment très peu cuites.
Très al dente.
Très al dente, oui.
Quels sont vos premiers souvenirs de pâtes chez vous, du côté de Naples? C'est quoi les premiers souvenirs, les odeurs, les... Racontez-nous un petit peu.
Ce goût du blé, et puis le paquet qu'on ouvre, et puis parfois les restes de paquets de pâtes qu'on mélangeait pour faire autre chose. Donc, voilà. Et puis, toujours cette disponibilité. On arrive chez une tante, chez des cousins, chez la grand-mère, chez des amis, et ben on peut toujours improviser ça. Donc, cette facilité-là.
Ouais. Daniel Jerkens, votre rapport avec la pasta?
Passionnel, évidemment, j'ai envie de dire comme tout le monde. Non, je trouve qu'effectivement, Alba a parfaitement résumé notre rapport aux pâtes, même si on n'est pas italien. Je pense que surtout les Français ont une petite part d'ADN italien qui traîne. Je ne sais pas si c'est les Romains passés par la Gaule, mais les pâtes, c'est ça. En fait, les pâtes, c'est une immense facilité, un infini d'options d'assaisonnement. du plus simple au plus complexe. La certitude consciente ou inconsciente que ce sera bon et que ce sera réconfortant. On sait que c'est pas très cher non plus. Et c'est vrai que c'est un plat qu'on fait aussi bien quand on est tout seul, parce qu'on veut manger rapidement, parce qu'on veut se réconforter, ou parce qu'on est très nombreux tout à coup, et que ça permet à l'instant T... voilà. Nous, on sait que sur Elle à table, quand on met des pâtes en couverture, ça marche.
Infinie facilité, dites-vous, Daniel Cherkens, mais on peut être très proche du ratage. C'est-à-dire que les raisons de rater sa pasta sont assez nombreuses. Quand alors, même. On y reviendra au cours de l'émission.
Oui, mais alors juste là, je mettrai un tout petit bémol, parce que le ratage de la pâte est une notion infiniment personnelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui adorent manger les pâtes très cuites. Alors, Boris Ancel, à mon avis, ne va pas valider, mais néanmoins, et qui estimeront qu'ils ne l'ont pas raté. Oui. À l'inverse, il y a des gens comme Alba qui les aiment presque croquantes. Ce qui, pour d'autres, va être presque raté. Donc, c'est quand même aussi un ingrédient qui permet une certaine élasticité, c'est le cas de le dire, dans la préparation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule manière de faire les pâtes.
Et puis ce qui est bien Alba Petzon avec les pâtes, c'est que, vous l'avez dit, elles sont simples, rapides, c'est pas cher. Et puis elles s'accordent bien à la saisonnalité. C'est vrai que l'automne, on ne fait pas le même type de plat à base de pâtes qu'en ce moment.
C'est-à-dire qu'on peut improviser soit en ouvrant son placard, soit en ouvrant son frigo, soit en allant au marché. Moi, quand j'ai envie de cuisiner des pâtes, c'est... ma cuisine sans recette, au fait. C'est, les pâtes, pour moi, elles vont avec tout. Après, j'ai une panoplie de formats de pâtes, parce que ça, on y reviendra. Parce que tout ne s'associe pas avec tout. Enfin, des formats qui vont mieux avec certaines sauces et certains condiments. Et donc, après, c'est je sais pas, on dit chou-fleur, potiron, champignon, fenouil, sardine, enfin, je sais pas.
En fait, les pâtes sont une fondation sur laquelle vous pouvez construire, c'est un socle sur lequel vous pouvez construire finalement ce dont vous avez envie. Soit du très simple, soit de l'extrêmement sophistiqué, soit de l'hyper-saisonnalité, soit au contraire un produit qui est trans-saisonnier. Typiquement, une bonne sauce tomate, vous la faites, moi j'en fais 250 pots par an l'été, elles sont trans-saisonnières. C'est vraiment un socle sur lequel on peut exprimer une capacité à faire du très simple comme une capacité à faire de l'extrêmement compliqué et sophistiqué.
Votre rapport avec les pâtes, Éric Birloise ?
Oui, alors, je valide tout ce qui a été dit, bien évidemment, mais moi, il y a un mot qui me paraît important dans le cas des pâtes, c'est le mot accessibilité. Accessible financièrement, évidemment, il n'y a rien de plus économique que les pâtes. Physiquement, on les trouve partout et en toute saison. Accessible mentalement, c'est-à-dire quand j'ai faim, à quoi je vais penser spontanément les pâtes. Et puis, il y a une accessibilité quand on n'est pas doué en cuisine. Finalement, on vient de le dire, faire des bonnes pâtes, c'est autre chose, mais faire des pâtes, tout le monde est capable de le faire. Et puis, voilà, je pense toujours que effectivement, les pâtes, c'est un produit céréalier, bien évidemment, et que les céréales, ne l'oublions pas, ça a été la première famille de plantes que l'humain a cultivée sur cette terre il y a presque 12 000 ans.
Et Boris Ancel, votre rapport avec la pasta ?
Écoutez, ce que j'écoute depuis tout à l'heure, ça me parle particulièrement.
Mais vous, personnellement ?
Justement, ça me parle particulièrement parce que tout ce qui a été dit, c'est ce que je ressens. Je mets de côté le côté nutritionniste que je suis. Et effectivement, quand vous n'avez pas franchement le temps de cuisiner, que vous n'avez pas fait les courses, que vous voulez manger sainement, eh bien, vous avez toujours un paquet de pâtes au fond du placard et vous avez toujours moyen, rapidement, de faire quelque chose, finalement, de sain. Peut-être on va y revenir après, mais non, les pâtes, c'est pas un aliment anti-régime, c'est pas un aliment qui fait grossir. Et je vous dirais même quelque chose tout à l'heure, mais je ne veux pas le dire tout de suite, où j'ai utilisé les pâtes à visée thérapeutique chez certains patients qui ont des troubles alimentaires. Ouais, je vous dis ça. Et alors maintenant, je ne vous dis pas que je suis un grand cuisinier de pâtes, si je suis venu aujourd'hui à Lille, c'est d'abord pour moi, parce qu'il paraît que des fois je me trompe et qu'elles sont trop sèches, et j'attends que vous nous disiez comment faire.
Et tout à l'heure, Éric Birloise, vous nous raconterez la petite histoire des pâtes. Vous nous direz si Marco Polo les a vraiment ramenées de Chine. Bonjour Jérémy Pelletier.
Bonjour Ali.
Co-directeur de la Fondation Jean Jaurès, quel est le menu de votre chronique « Les Français, mode d'emploi » ?
Dans quelques jours, vous allez voir, lire, entendre un certain nombre de rétrospectives d'un événement qui a eu lieu l'été dernier, les Jeux Olympiques. Et donc, on s'est interrogé à la mémoire qu'ont les Français de ce moment qui fut une sorte de parenthèse enchantée. Qu'en gardent en souvenir et en tête les Françaises et les Français ? On va en parler tout à l'heure, à l'occasion des 1 an des JO.
Et votre rapport avec les pâtes ?
C'est un rapport passionnel. C'était peut-être le seul plat que je faisais lorsque j'étais célibataire pendant des années. Et donc j'ai une affinité particulière avec ce plat.
Même en couple, on peut continuer à faire des pâtes.
Absolument. Mais j'ai upgradé les pâtes que j'ai fait après.
Dans un instant, on continue à s'intéresser aux pâtes à toutes les sauces. On se retrouve juste après avoir écouté une chanson des Beach Boys, hommage au génie de la musique, Brian Wilson, le cofondateur du groupe décédé hier à l'âge de 82 ans, considéré par Paul McCartney lui-même comme le plus grand parmi les géants des années 60, comme le rappelle si bien Christophe Comte dans le très bel hommage ce matin dans Libé, Libération à lire absolument. Sloop Johnny B, issu d'un des plus grands chefs-d'œuvre de la pop, l'album Pet Sounds, sorti en 1966, 10h16 sur Inter. We come on this loop, John B. My grandfather and me. Around Nassau town we did roam, drinking all night. Got into a fight. Well, I feel so broken. Hommage à Brian Wilson, le cofondateur du groupe Les Beach Boys, Sloop Johnny B.
France Inter.
Puis-je me permettre de vous préparer des spaghettis à l'italiane, per tutti?
La bonne idée.
Grand bien vous fasse.
Des spaghettis al pesto.
S'il vous plaît, al pesto, c'est parce que ça empeste.
Ali Rebi.
Et ce matin, dans Grand bien vous fasse, on se demande pourquoi les pâtes ont le don de nous rendre heureux avec l'autrice culinaire Alba Pezzon, le sociologue de l'alimentation Éric Birloez, le professeur Boris Ancel et Danielle Gerkens, directrice de Elle à table. Écoutons le reportage signé Antoine Poitras et Candice Leray dans les rues de Paris cette semaine.
Voilà dans les pâtes. Qui n'aime pas les pâtes? Bien sûr que j'aime les pâtes.
C'est très bon, ça peut se manger chaud ou froid, c'est délicieux.
Je suis d'origine d'Aja à la base italienne, donc pour moi les pâtes c'est la vie, on va dire. De base originaire de Rome, donc à la cacio pepe ou à la carbonara.
C'est aussi rappel de l'enfance, un peu de régression. Je sais quand j'étais petite, je mangeais des pâtes en forme de petites lettres et j'adorais ça.
Moi, j'associe la consommation de pâtes aux semaines d'épreuves de bac. Et c'est pour ça que je préfère les pâtes à la chinoise, parce que ça me rappelle ma grand-mère que je vois tous les ans en Chine.
Ça évoque des souvenirs d'enfance, le gratin de pâtes aux gruyères avec de la crème de ma grand-mère.
Ça remplit la panse.
Et puis même le geste et le slurp et tout ça, toute la culture autour est sympa.
Alors, Benoît nous écrit « J'ai pu séduire ma compagne avec une recette de pâtes à l'ail il y a 20 ans. Depuis tous les jeudis soirs, je lui prépare ce plat et c'est un bonheur simple qu'on partage al dente. » Elle doit vraiment beaucoup l'aimer parce qu'elle a quand même accepté de manger des spaghettis à l'ail.
Mais c'est aphrodisiaque, l'ail. Hein.
Non, c'est très bon. Mais après, ça reproche. Bah, ça reproche, comme on dit après, quand l'ail, on a mangé de l'ail. Mais je suis d'accord avec vous, Daniel Jerkens. Éric Birloise, une idée reçue assez tenace. Une légende, une véritable mythologie alimentaire voudrait que l'explorateur Marco Polo ait rapporté les pâtes en Europe depuis la Chine.
Eh oui, c'est ce qu'on raconte, c'est une de ces innombrables légendes alimentaires, ça doit faire la 3425e fois qu'on va briser le mythe.
Tenter.
Alors effectivement, on raconte ça, mais quand on regarde le récit de voyage de Marco Polo, en fait, il ne parle de pâtes que deux fois, mais de manière très courte. La première fois, il dit qu'il a mangé des pâtes à Sumatra. La deuxième fois, que les Chinois font une pâte à pain, mais ils ne font pas du pain, ils font des pâtes alimentaires avec, et il n'en dit pas plus. Il ne dit pas du tout que c'est une nouveauté, une découverte pour lui, il ne dit pas qu'il les a ramenés, et on sait aujourd'hui, mais ça on y reviendra, que depuis bien longtemps, dès l'Antiquité, ben on mangeait des pâtes, et donc Marco Polo n'a rien à voir avec cette histoire. Alors d'où ça vient? Et c'est ça qui est intéressant. En fait, on voit apparaître cette histoire de Marco Polo dans les années 1920 aux États-Unis, où il y a des immigrés italiens qui sont arrivés en masse, qui mangent bien évidemment des pâtes. Et l'histoire, on la trouve dans un article, une publicité, on ne sait pas très bien, du Macaroni Journal. Alors c'est quoi le Macaroni Journal? C'est un bulletin, le bulletin de l'Association américaine des fabricants industriels de pâtes, qui se dit, si on veut élargir notre clientèle, pas seulement aux immigrés italiens, mais à tous les Américains, il faut raconter de belles histoires. Ça s'appelle du storytelling. Et donc, on raconte cette histoire. Alors, il y a plusieurs versions, mais il y a un marin, alors il s'appelle Macaroni, évidemment, qui tombe en admiration devant des femmes chinoises en train d'étirer des fils de pâtes. Il trouve ça super, il ramène les pâtes et la recette. Cette histoire, elle va plaire énormément. Donc, il y a des tas de textes qui vont, des BD, des cartoons, et même en 1938, il y a un film qui s'appelle Les Aventures de Marco Polo, mais alors attendez, parce que là, le rôle principal, c'est quand même Gary Cooper. Oui. Et donc, c'est pas rien, et lui, il tombe amoureux deux fois. La première fois, alors il joue Marco Polo, il tombe amoureux de la fille de l'empereur de Chine, et la deuxième fois, des spaghettis. Voilà, donc, c'est une histoire, évidemment, qui n'a absolument rien de réel quant à l'origine des pâtes.
Alors, quelles sont les plus anciennes traces de pâtes? Ça remonte à quand ?
En fait, les pâtes, ce qui est intéressant, c'est que, bon, depuis très longtemps dans le bassin méditerranéen, mais également en Extrême-Orient, et les plus anciens vestiges de pâtes, à ce jour, on les a trouvés il y a à peu près une vingtaine d'années, en Chine, donc des nouilles, on les a datées, 4000 ans, qui étaient des nouilles, pas de blé, mais de millet. Et puis, quand on va un petit peu plus vers l'ouest, on a trouvé, alors là, un livre de cuisine. Alors, un livre de cuisine, il faut imaginer des petites tablettes d'argile avec des signes d'écriture cunéiformes. On est en Mésopotamie, il y a 3700 ans, et là, il y a une recette, entre guillemets, de pâtes. Ça fait très longtemps que l'on fait des pâtes. Alors, il y a les pâtes fraîches, et puis, et moi, j'ai même tendance à dire que depuis que les humains ont compris qu'avec des grains de céréales, et peut-être même avant de cultiver les céréales, avec des grains de céréales sauvages, ils les écrasaient, ils les mélangeaient avec de l'eau, ils faisaient de la pâte, et vous balancez cette pâte dans de l'eau bouillante, et bien ça vous fait des pâtes. Donc on ne sait pas très bien l'origine, mais ça remonte certainement à très longtemps. Alors il y a les pâtes sèches, et les pâtes sèches, là, on a quand même des indices assez précis qui nous disent que ce sont les berbères musulmans islamisés par les Arabes, qui vont conquérir la Sicile, 8e, 9e siècle, et qui vont apporter donc en Sicile cette recette de pâtes sèches, dont on dit pour les pâtes sèches qu'en fait ce seraient les nomades qui parcouraient le désert arabique et du Afrique du Nord également, qui, n'ayant pas d'eau à disposition tous les jours, eh bien auraient imaginé de faire sécher ces pâtes. Ses pâtes au soleil, de manière à avoir des pâtes sèches.
Effectivement, c'est né les pâtes sèches comme un produit de conserve, quelque part, le fait de pouvoir les garder. Et si ils ont toute leur chance à Naples aussi, c'est parce que Naples, c'est un port, et donc on pouvait les faire partir. Donc le fait de pouvoir les sécher, et d'ailleurs, ça leur a valu un peu le mépris des classes aristocratiques en Italie, qui ne mangeaient au démarrage que des pâtes fraîches, considérées comme des pâtes gastronomiques.
Absolument.
Les pâtes sèches fâcheux produit de conserve était les pâtes du petit peuple. Puis un jour, le roi de Naples a commencé à aimer les macaronis, etc., etc.
À quelle époque arrivent les pâtes en France, Éric Gouez ?
Alors, dans notre pays, on ne sait pas très bien, mais on sait que c'est à la fin du Moyen-Âge, 13e, 14e. Alors, aujourd'hui, les historiens disent que ce n'est peut-être pas arrivé par la Provence, comme on l'a longtemps cru, parce qu'il y avait des relations avec les villes italiennes assez évidentes, plutôt par la Catalogne. Bon. Peu importe. En tout cas, elles arrivent, mais ça reste déjà, dans un premier temps, localisé au sud du pays. On voit quand même que le jeune roi, enfin on écrit que le jeune roi Louis XIII mange des pâtes parce que déjà à l'époque, bon, il n'y avait pas Boris Sancel, mais il y avait des médecins qui disaient que les pâtes, c'était un aliment qui était bon pour la santé. Donc on en donne au jeune roi enfant, mais dans du bouillon, parce qu'il faut que ça corresponde à son estomac. Et donc pendant donc ça va venir déjà au siècle des Lumières, au XVIIIe siècle, on va trouver des pâtes consommées pas très couramment, mais par les classes aisées, justement, par la bourgeoisie. Et la grande démocratisation des pâtes, c'est à partir du début du 19e et surtout début du 20e, où ça devient le plat de nouilles, l'aliment populaire.
Tiens, vous parlez de nouilles, nouilles versus pâtes.
Oui, alors pâtes, bah, l'étymologie c'est pasta, donc un mot latin qui viendrait du grec pasta également, donc c'est un mélange de farine et d'eau que l'on va pétrir. Et alors nouilles, alors je ne l'ai pas dit, mais effectivement, j'ai beaucoup parlé de la Provence, qui est la région où on mange des pâtes et où on a des fabriques de pâtes d'ailleurs à la fin du Moyen-Âge, mais également en Alsace, alors qui ne fait pas partie de la France à l'époque, hein, qui est un pays de langue, enfin un pays germanique, et là on a des noodles en allemand qui a donné les nouilles, et donc c'est une autre région de tradition pastière.
Daniel Jerkens.
J'ai une question à vous poser justement, il semblerait, j'ai lu que les pâtes, il y avait des pâtes plus anciennes en France qui étaient sous forme de ravioles, de pâtes farcies, oui, qui, elles, auraient dérivé de préparations qui se faisaient déjà dans l'Empire romain et qui seraient passées plus par le Dauphiné, etc. Et que ça, c'était quelque chose de peut-être plus ancien que les pâtes, au sens où on les entend aujourd'hui isolées.
Vous avez raison, parce qu'il y a les crozets qu'on trouve aujourd'hui, justement, dans cette région-là,
Savoie.
Dans le Savoie. Et on pense effectivement que les pâtes qui étaient consommées déjà à l'époque romaine, dans l'Antiquité, c'était soit des lasagnes, c'est-à-dire des lames des feuilles, etc., farcies, avec alternance de ce qu'on voulait mettre dedans, et également ses ancêtres de ravioli, donc de petits chaussons fermés, farcis également, qui pourraient être effectivement très, très anciens.
Alors, Alba Pezzone, quelles sont les différences fondamentales dans la manière de consommer les pâtes entre les Italiens et les Français ? Vous qui vivez dans les deux pays, qu'est-ce qui est le plus frappant pour vous, Alba ?
Ben, je dirais, c'est surtout la modalité de cuisson. Et par exemple, on va parler de l'assaisonnement, mais qui est plus variable. On est quand même un peu plus rigoureux en Italie, enfin, surtout en Italie du Sud, parce qu'il y a quand même des règles de cuisson pour que les pâtes soient bonnes.
Rappelez-les, voilà. Quelles sont les règles, tiens, Alba Pezzone, de cuisson des pâtes?
C'est-à-dire que, 100 grammes de pâtes, pour une personne, il faut 80 grammes, entre 80 et 100 grammes de pâtes, donc c'est 1 litre d'eau et c'est 5-6 grammes de sel, donc pas très salé. Et ce que je remarque le plus souvent chez mes copains quand je suis invitée en France, c'est qu'en fait, les pâtes sont des sardines. C'est-à-dire, on n'a pas de pastaiola, c'est-à-dire une pastaiola, c'est au moins 5 litres.
C'est quoi les pastaiolas?
Et ben, au fait, c'est des grandes marmites très hautes qui permettent de faire des pâtes courtes et des pâtes longues, donc les spaghettis, parce qu'on ne va pas les écraser dans une sauteuse.
Casser.
Est-ce que c'est sacrilège de casser les spaghettis en deux pour que ça rentre?
Non, pas à Naples. Hein. Et même qu'à Naples, les spaghettis sont coudés, donc ils font souvent 60 cm de longueur. Donc on ne les casse pas. Voilà, on ne les casse pas, donc je dirais ça. Et puis effectivement, on surveille un peu la cuisson des pâtes. On la termine avec la sauce, alors que parfois en France, on aurait plutôt tendance à poser la sauce sur l'assiette de pâtes. Et laisser donc à l'invité le soin de mélanger, ce qui à la fois les refroidit et ça leur donne un peu moins de goût.
Mais racontez-nous ça, c'est très important, cet assaisonnement des pâtes. Prenons des spaghettis, voilà, on les a cuits, donc on a pris 100 grammes de pâtes par personne pour 1 litre, avec 5 à 6 grammes de sel. On les cuit, bon, selon son goût, très al dente pour vous, Alba. Qu'est-ce qu'on fait après? On a la poêle. normale. Voilà. Si je veux faire, si je veux faire par exemple des pâtes à l'ail au piment, toutes simples, qu'est-ce que je fais? J'ai ma poêle, comment je
Donc de l'autre côté, effectivement, donc ça c'est très intéressant parce que tu es en train d'énoncer une autre règle hein, qui fait le bonheur des pâtes, c'est qu'en 15 minutes chrono, on passe à table. Ouais. Hein, c'est-à-dire c'est juste le temps de cuisson des pâtes et puis le temps de préparer une sauce.
Alors donc, à la poêle. Pâtes,
voilà, à la poêle.
Qu'est-ce que je fais?
Il y a de l'ail, un petit piment émietté, quelques herbes fraîches, un zeste de citron et des anchois à l'huile d'olive.
Est-ce que je mets de l'eau de cuisson dedans?
Alors, on prend un petit peu d'eau de cuisson à l'intérieur, donc on la verse donc à la poêle, mais tout doucement, c'est-à-dire pas beaucoup, parce qu'en fait, elle est légèrement amidonnée et permet de donner du liant à la sauce. On égoutte les pâtes de l'autre côté, un petit peu plus al dente, parce qu'en fait, leur cuisson va se terminer à la poêle, qui est aussi une cuisson. On appelle ça mantecare, c'est-à-dire faire une liaison entre les pâtes et leur assaisonnement.
Et cette liaison s'appelle la mantecatura.
Exactement, c'est la mantecatura, et ça se passe à la poêle. Donc ça permet à la fois d'assaisonner les pâtes dans le rame et puis de les servir chaudes dans l'assiette.
Et racontez-nous ce geste essentiel, spadellata.
Ben, spadellata, c'est-à-dire c'est un coup de poing, c'est-à-dire c'est un coup de coude. C'est-à-dire on soulève les pâtes et puis et remonte sur le bord et retombe dans la sauce et ça dure 1 à 2 minutes. Donc on les assaisonne, on les réchauffe et puis c'est parti, on passe à table. C'est juste le dressage. Donc peut-être un petit peu de fromage râpé, ce qu'on rajoute souvent à la fin. Mm. En France, on a souvent tendance à mettre le fromage à la poêle ou à le chauffer, ce qui le colle un peu. Et
Daniel Jerkens.
Ah non, surtout pas. Mais, enfin non, non, il faut surtout pas le faire. Non, parce que ça transforme le fromage, surtout le parmesan.
C'est un collant.
C'est un collant. Mm. Donc si vous le mettez effectivement dans la poêle, il fond et il colle. Donc c'est pas forcément désagréable, mais c'est très particulier.
Ce qui est très important aussi à propos de l'eau de cuisson importante, c'est de pas la mettre trop chaude non plus.
Pas trop chaude non plus, et surtout progressivement, parce qu'en fait, quelqu'un a parlé tout à l'heure d'une texture un peu asséchée, ça peut venir d'un condiment qui est trop juste, et en fait...
C'est Boris Ancel qui sait pas cuire ses pâtes.
Moi, je ne veux pas la...
Mantecatura. Voilà, mais c'est un geste très simple, hein, donc...
Tiens, on fait du sport en même temps.
Ouais. Daniel Jerkens, une recette issue du dernier numéro de Elle à table, actuellement en kiosque. J'ai choisi souverainement des linguinés au pesto de tomates et pistaches. Alors, c'est quelle page ça? Tiens, je vous la donne, la recette, je vous la file, ma chère Danielle. J'ai choisi donc ces linguinés assez simples à faire au pesto de tomates et pistaches.
En fait, l'idée, c'est de décaler un petit peu le principe du pesto. D'abord, pesto genovese, qu'on connaît tous, qui est le pesto traditionnel au basilic, qui est très bon, surtout quand il est frais, parce que franchement, moi, je dois avouer que le pesto en bocal pasteurisé, ça n'a rien à voir. Et donc là, l'idée, c'est de travailler sur le pesto rouge. Et d'ailleurs, ce qui est aussi intéressant, c'est que quand on discute avec les marques industrielles, évidemment, de production de sauce, ils nous expliquent que le pesto rosso en France est une des recettes qui marche le mieux et qui est en train de croître très très vite. Donc concrètement, alors vous faites cuire effectivement des linguinés dans une casserole d'eau chaude, jusque-là tout va bien, on a les informations.
Casserole pour Alba, ce sera plutôt, comment vous appelez ça déjà?
Une pastaiola.
Une pastaiola. Et d'ailleurs les pastaiola, c'est très bien, moi je l'avais mis sur ma première liste de mariage jadis, c'était quasiment au siècle dernier, parce que c'est très très grand et vous avez à l'intérieur une espèce de très grande, comment dire, deuxième casserole perforée. Et donc vous pouvez
dégoûter à
voilà, dégoûter, c'est formidable.
Je vous en profite pour un petit message personnel. Pour mon anniversaire, vous pouvez m'offrir une pastaiola.
Moi, voilà. C'est bientôt. Hein. C'est bien, très bientôt.
Et donc
Alors, idéalement dans un mortier, mais vous pouvez aussi le faire au mixeur, vous mélangez gousse d'ail, une gousse d'ail coupée en morceaux, une cuillère à soupe de pignon de pin. Idéalement, vous les faites légèrement revenir à la poêle parce qu'ils seront un peu torréfiés, ça sera encore meilleur, ça aura plus de goût. Des pistaches, une cuillère à soupe de pistaches décortiquées, et vous écrasez le tout ou vous le mixez. Ensuite, vous ajoutez 4 pétales de tomates séchées à l'huile d'olive, éventuellement légèrement découpées avant pour que ça soit plus facile à mixer, des feuilles de basilic, des feuilles de menthe, ce qui va donner un peu de fraîcheur, et vous allez avoir une pâte avec tout ça. Vous la mettez de côté. Vous rajoutez petit à petit de l'huile d'olive pour la détendre. Et pour finir, vous ajoutez une quinzaine de tomates cerises coupées en deux. Alors là, on ne mixe plus, évidemment. Et on termine avec du parmesan râpé. On finit avec de l'eau de cuisson, 3 cuillères à soupe. ce qui n'est pas énorme, hein, pour délayer un petit peu et donner ce côté crémeux. Ouais. Et ensuite, vous ajoutez tout ça dans les pâtes égouttées et vous servez. Si vous voulez le faire de manière plus puriste, vous ne mettez pas le parmesan à la fin du pesto. Vous les faites revenir le tout dans la poêle pour le mélanger. Et à la fin, effectivement, vous servez avec du parmesan. Ça va être très très bon.
Une recette de Alba Pezzone, un minestrone d'été.
Ah oui, avec la mesca francesca.
Alors ça, rappelez ce que c'est la mesca francesca, c'est un type de pâte.
C'est un type de pâte. En fait, je raconte juste le geste de ma grand-mère. Il y avait toujours des restes, des fonds de paquets de pâtes dans le placard. Donc une fois par semaine ou tous les 15 jours, elle mélangeait tout et elle nous préparait ça avec.
Alors si vous avez dans votre placard, dans votre placard des restes de pâtes, vous les cassez.
Exactement, et puis on les mélange et puis ça fait un format de pâte qui est anti-gaspi avant l'heure, donc c'est très intéressant. Et il paraît qu'à mesca francesca, ça veut dire mélange français, oui. Mélange, parce que ça date d'une époque napoléonienne. On disait que les fins de mois des Napolitains étaient un peu durs, toujours dans les légendes. Donc en fait, ils récupéraient les restes des pâtes et puis les assaisonnaient avec des légumes.
Alors, soit vous achetez des mesca francesca,
soit vous prenez des
restes de pâtes de la maison. Et alors, ce minestrone d'été, il ressemble à quoi?
Alors, ce qui est intéressant dans la mesca francesca, c'est que les formats de pâte étant différents et mélangés, les temps de cuisson, puisqu'on verse tout dans l'eau, va être différent. Donc, on aura des textures différentes. Les formats courts seront un peu plus al dente, les formats fins, type spaghettini ou linguine, un peu plus fondants. Donc, ça, c'est très, très agréable à manger. Et puis, donc, vous allez au marché, vous achetez des cébettes, du céleri, des carottes, des poireaux, des pousses d'épinards, des petits pois, des haricots écossais, des flageolets, etc. Vous les faites cuire après. Donc, vous
on les fait revenir dans les oignons.
Dans les oignons, dans une cuisson qui est assez al dente, avec oignons, ail, etc., un filet d'huile d'olive et quelques herbes aromatiques. Et puis, donc, vous égouttez les pâtes à mi-cuisson. Et là, donc, vous les faites cuire. Donc, vous les rajoutez à vos légumes mélanger, en rajoutant de l'eau de cuisson, vous rajoutez encore 3-4 minutes de cuisson. En fin de cuisson, un petit peu de vrai pistou de basilic, donc une râpée de parmigiane, c'est à table. Donc on a là une texture assez juteuse, ce qu'on appelle aussi des pâtes à l'onda, c'est-à-dire à la vague, avec un peu de jus qui affleure encore autour de la cuisson.
Alors on va déguster ces linguinés au pesto de tomates et pistaches, ce minestrone d'été, mais professeur Boris Ancel, est-ce que tout ça nous fait grossir ou pas du tout? Est-ce que c'est une idée reçue que les pâtes fassent grossir?
Oui, c'est une idée reçue et on a pas mal d'épidémiologie, d'études observationnelles qui finalement montrent que les consommateurs de pâtes, ajustés sur les autres caractéristiques du comportement alimentaire et du mode de vie, ne font pas prendre de poids. Il y a même eu des études cliniques dans lesquelles on a des régimes alimentaires type méditerranéen, dans lesquels on compare un apport faible en pâtes, c'est-à-dire moins d'une ou deux fois par semaine, un apport plus fréquent en pâtes, 3-5 fois par semaine, où on se rend compte très clairement que non seulement il n'y a pas de prise de poids, mais il y a plutôt tendance à une réduction du poids. Évidemment, la problématique, c'est à quoi est associé dans le mode de vie général la consommation de pâtes. Si c'est une consommation compulsive, le soir, deux fois, trois fois, on se resserre, et après on prend du fromage, et après on consomme autre chose, c'est pas les pâtes qui font grossir, c'est le comportement alimentaire général. C'est très important. En termes de l'apport calorique, parce que finalement, la prise de poids est liée à l'importance de l'apport calorique. Les pâtes, c'est à peu près toujours 130 calories à peu près pour 100 grammes. Il y a un peu de protéines, il y a des fibres, ça dépend du type de pâte. Donc c'est un aliment qui pose pas de problème en soi, c'est pas un aliment ultra transformé, donc pas de problème.
Vous disiez que vous utilisiez, au début d'émission, les pâtes comme outil d'éducation thérapeutique.
Oui, juste avant, encore une chose par rapport à une autre idée reçue, si je peux me permettre, Ali, après je répondrai à votre question. Souvent on dit qu'il ne faut pas manger de féculents le soir, ça fait grossir, enfin manger de pâtes le soir,
souvent.
Ça fait grossir. Ouais. Extrêmement fréquent. Alors, c'est vrai que récemment, un rapport de l'ANSES a dit que probablement, c'était peut-être plus intéressant d'apporter les glucides en première partie de journée que le soir. Mais ce n'est pas une recommandation aujourd'hui, on manque encore de données vraiment pour affirmer cela. Je voudrais mentionner une étude chez des policiers français dans laquelle on a apporté une alimentation où l'essentiel des féculents, y compris les pâtes, étaient apportés le soir ou la journée. Et on a comparé ce qui se passait sur le poids, c'était des personnes en situation d'obésité, et on a comparé ce qui se passait sur l'appétit. Eh bien, imaginez-vous que dans le groupe où les apports glucidiques, l'apport en féculents, notamment les pâtes, étaient essentiellement le soir, il y avait plutôt une tendance à la perte de poids et une réduction de l'appétit le lendemain. Et une des hypothèses, c'était qu'on augmentait la leptine, une hormone de la satiété. Je ne dis pas qu'il faut manger les pâtes le soir, mais voyez qu'il faut casser ces idées reçues.
Et nous avons l'exemple d'Alba Pézone qui a la ligne et qui mange beaucoup, beaucoup de pâtes.
Mais j'en mange comme si c'était un plat unique, ouais, hein, moi. Ouais, hein, ouais. C'est-à-dire qu'après, c'est une salade ou... voilà.
Non, mais c'est toujours bien aussi d'associer évidemment les pâtes avec une salade de tomates.
Vous avez une sauce, peut-être quelque chose du genre du sofrito, voilà, enfin des sauces, voilà, des légumes, etc. Donc évidemment, ça fait partie de l'alimentation équilibrée.
Et vous nous direz tout à l'heure, Boris Ancel, si les pâtes font monter l'index glycémique.
Je vous dirai mon utilisation thérapeutique. Ouais.
Et une question de notre réalisatrice Claire Destacan qui nous demande si on peut manger des pâtes tous les jours.
Écoutez, moi, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas manger des pâtes tous les jours. On peut manger du pain tous les jours. Il n'y a pas de raison de ne pas manger des pâtes tous les jours. Ce que je dirais, c'est pas l'un et l'autre, c'est l'un ou l'autre. Mais il n'y a pas de raison. Les pâtes ne font pas grossir en soi.
Daniel Jerkens.
Et puis, il y a des régions du monde, je pense par exemple au sud de la Chine, où traditionnellement, on mange des pâtes quasiment tous les jours, et où les gens ne sont pas gros. Après, ils ont une activité physique qui est relativement importante. Ils mangent les pâtes, notamment dans des bouillons, et pas couverte de crème et de beurre et de voilà.
Et dans un instant, nous recevrons Henri Claude qui nous a appelé, qui nous racontera un souvenir d'enfance lié aux pâtes. Il est 10h42, l'heure de retrouver les Français. Mode d'emploi avec Jérémy Pelletier, co-directeur de la Fondation Jean Jaurès.
Regardez Salomon, regardez.
Grand bien vous fasse.
C'est net, c'est silencieux, il n'y a pas de fumée. C'est un Français.
Ali Rébéi.
Tu peux pas faire la queue comme tout le monde. Abruti, crétin, cocu.
Sur France Inter.
C'est ça les Français.
Alors Jérémy Pelletier, ce matin, vous nous parlez de nostalgie. Vous parlez de nostalgie assez souvent, hein ?
Un petit peu. C'était une parenthèse enchantée, un moment de légèreté, une période joyeuse dans laquelle régnait une atmosphère victorieuse. Savez-vous de quoi je veux vous parler, mon cher ami ?
Oui, évidemment, les JO.
Eh oui, des JO, des Jeux Olympiques et Paralympiques, bien sûr, dont nous allons célébrer les 1 an dans quelques jours, avec différentes rétrospectives et festivités au programme, dont le retour de la fameuse vasque olympique aux Tuileries le 21 juin prochain. Je suis sûr que vous y serez. Et peut-être que tout cela plongera les Français dans une forme de nostalgie en repensant à ce bel été dernier. Mais d'ailleurs, de quoi se souviennent les Français ? Que gardent-ils en mémoire ? C'est ce que nous avons essayé de mesurer et d'analyser dans une étude avec l'Institut BVA qui sera publiée la semaine prochaine sur le site de la Fondation Jean Jaurès dans le cadre d'un petit rapport collectif. Et le premier enseignement que l'on peut tirer, c'est que les Français gardent un souvenir positif de cette période. Évidemment, ce n'est pas une surprise. Quand on leur demande quels sont les mots qui résument le mieux le souvenir qu'ils ont des Jeux, omniprésence des termes particulièrement positifs, c'est d'abord le terme « réussite » qui est cité en premier, terme qui peut renvoyer tant à l'organisation réussie de ces Jeux qu'à la performance sportive de certains athlètes et de certaines nations, à commencer par la France, qui termina, je le rappelle, 5e au classement des médailles, avec un total de 64, dont 16 médailles d'or. Arrive ensuite le terme de fierté, symbole supplémentaire que ces Jeux ont semblé redorer le blason d'un pays défiant et fracturé. Enfin, ce sont la fête, puis la joie qui sont cités, témoignant de ce que les JO sont parvenus à faire en termes d'atmosphère, dans un pays habituellement en proie à la morosité. D'ailleurs, 1 an après, nos Français sont-ils touchés par la nostalgie en repensant à cet événement ? Notre enquête indique que 33% des Français ressentent une forme de nostalgie lorsqu'ils pensent aux Jeux. Et certaines catégories de la population sont touchées de façon beaucoup plus massive par la nostalgie, notamment les plus jeunes, qui ont sans doute encore plus vécu cette période comme un moment de légèreté. 56% des moins de 25 ans disent être nostalgiques des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et bien évidemment, les habitants de l'agglomération parisienne, qui furent évidemment les plus imprégnés par l'atmosphère positive des Jeux dans une capitale soudainement pacifiée et réhumanisée. 46% de nostalgiques chez les habitants de l'agglomération parisienne.
Mais Jérémy, les Français sont-ils nostalgiques des moments sportifs ou du spectacle général des Jeux ?
Eh bien des deux. Les souvenir porte tant sur des éléments sportifs que sur des éléments extra-sportifs. Ainsi, pour 27% des Français, les meilleurs souvenirs des Jeux sont les cérémonies, notamment évidemment la cérémonie d'ouverture, preuve que ce fut un moment de rassemblement dans les foyers. Par ailleurs, 23% citent l'ambiance et l'engouement du public comme meilleurs souvenirs, quand 17% citent la mise en valeur des sites, des lieux et des monuments parisiens. Ainsi, une part importante de Français se souvient des Jeux d'abord et avant tout comme d'un moment sympathique, agréable et chaleureux, comme d'un événement qui a rendu l'air plus léger le temps d'un été. Ils sont nostalgiques en fait du cadre qui entourait les Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors on se souvient aussi, mais de façon plus mineure, des exploits sportifs et des victoires emblématiques de certains athlètes, ainsi que des médailles françaises. Mais au-delà de ça, ce que nous montre l'enquête sur la mémoire un an après, c'est que les Français se souviennent d'un moment où la France gagnait et réussissait, sorte de parenthèse au sentiment de déclin national et au récit d'un pays qui s'appauvrit et se tiers-mondise. Ainsi, 35% des Français interrogés nous disent qu'ils sont nostalgiques de la fierté que leur a procuré ce moment et 33% disent être nostalgiques du rayonnement de la France à cette période. En gros, pendant quelques semaines, la France était le royaume du monde et c'est assez rare pour être souligné.
Et est-ce qu'on a conservé un peu de cet état d'esprit JO un an après ?
Bon, au risque de vous décevoir, il faut quand même avoir en tête que les Français sont majoritairement passés à autre chose et ne cultivent pas, pour bon nombre d'entre eux, une excessive mélancolie pour ce moment. Ça signifie que dans les prochains jours, il ne faudra pas faire dire au sport ce qu'il ne dit pas. Il faudra faire attention à ne pas faire dire aux JO ce qu'ils ne disent pas. Même si 61% des Français indiquent que les Jeux ont favorisé le vivre ensemble, ils sont 70% à considérer que c'était une parenthèse, que c'est une parenthèse vitre fermée et que tout est redevenu comme avant. Il faudra donc trouver d'autres véhicules, d'autres moments et d'autres symboles que les Jeux pour revoir un peu de soleil dans l'eau froide, au risque de plonger dans une mélancolie bien lourde et bien longue.
Vous savez quoi ? Je suis monté sur la Tour Eiffel cette semaine. Le premier truc que j'ai demandé au directeur de la Tour Eiffel, c'est où Céline Dion avait chanté, parce que c'était quand même un moment assez extraordinaire pendant cette cérémonie d'ouverture mise en scène par Thomas Joly. Tous les épisodes des Français Mode d'emploi de Jérémy Pelletier sont à réécouter sur l'appli Radio France. C'était votre dernière de la saison, non ? Vous revenez ?
Non, j'en ai encore une. Ne me chassez pas.
Non, je ne vous chasse pas, surtout pas mon cher Jérémy. Dans un instant, quelques recettes de pâtes pour bien se régaler ce midi ou ce soir. Ce sera juste après avoir écouté Benjamin Biolay, juste avant de tomber, 10h47 sur Inter.
Ça valait le coup d'essayer, le coup de la peine dorée, le diable en déshabillé, vêtu de rien. Qu'un grain de beauté, ça valait le coup d'en finir. Y'en a même certains que ça fera rire, et d'autres bien emmerdés, bien parfumés, de noir habillés, belle persole fumée. J'écris ça juste avant de tomber, j'ai même pas vu ma vie défiler. De linge mouillé, mes lames à peine maculées. Je vous prie de me juger à l'aune de vos innombrables péchés. Vos péchés, quant à vous, sur le point de venir, mais que le moindre détail peut meurtrir. Vous qui certes encore confondez voie de départ et voie d'arrivée, corail et intercité. J'écris ça juste avant de tomber, j'ai même pas vu ma vie défiler. Mes yeux la fait sur mon berceau, qui de près s'est penché. J'écris ça juste avant de tomber, j'ai pas grand chose à vous dire. Je vois les belles choses, de belles choses.
Benjamin Biolay, juste avant de tomber.
France Inter.
J'ai pas grand chose à vous proposer. Je peux vous proposer du riz ou des pâtes.
Grand bien vous fasse.
Et comme accompagnement, on n'a même pas de beurre, mais de l'huile.
Ali Rebéi.
Et pour terminer cette émission consacrée aux pâtes, quelques recettes pour se régaler ce midi ou ce soir. Tout de même, Alba Pezzone, autrice culinaire réputée en cuisine italienne. Comment bien choisir ses pâtes au supermarché? Parce que vous nous avez apporté des pâtes artisanales fabuleuses que vous avez achetées à Naples. Hein,
qui ont même une IGP. Hein,
Gerardo Dinola. Oui. Bon, tout le monde ne peut pas avoir accès à ce genre de pâtes exceptionnelles. Comment on fait au supermarché quand on veut choisir ses pâtes? Racontez-nous les trucs, les astuces pour bien les choisir.
C'est de plus en plus facile. D'abord, les pâtes dites un peu premium en supermarché ont des paquets un peu craft. On les reconnaît par rapport aux autres paquets. Et puis, de plus en plus, les paquets ont des fenêtres transparentes. Donc, vous pouvez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce qui est important, c'est quand même une certaine rugosité à la surface des pâtes.
La rugosité,
une trafilatura in bronzo. Donc, en fait, elles sont extrudées en passant par des fils en bronze, ce qui leur donne cette texture un peu rugueuse à la surface qui permet à la cuisson d'accrocher la sauce. Puis donc, je dirais aussi, changer de format quand même. Je sais que les penne sont le format préféré des Français. Penne, ouais. Voilà, il y a des spaghettis.
Est-ce que vous pouvez nous dire, tiens, voilà, pour telle recette, vaut mieux prendre des penne, des spaghettis, des linguine, sur les pâtes les plus courantes. Dites-nous en quelques mots.
En fait, je dirais plutôt une règle de base. Il faut qu'on ait, quand on mange des pâtes, c'est des pâtes qu'on a envie de manger. Donc, au fait, le format de pâte, le design des pâtes, sa forme dépend de la sauce qui va avec. Voilà. Une sauce plutôt épaisse, plutôt très goûteuse. Imaginons une bolognaise avec de la viande, on ne va pas la mettre avec des spaghettis. Les spaghettis vont disparaître. Donc, on va choisir plutôt des grosses penne, des tortilloni.
La bolognaise, les spaghettis bolognaises, pour vous, c'est une hérésie.
Non, c'est-à-dire que je ne sens plus. On voit bien que la finesse des spaghettis ne peuvent pas supporter le poids de la bolognaise.
Donc, avec la bolognaise, on utilise, rappelez.
Des rigatoni ou des grosses penne ou des pâtes, des bucatini, par exemple.
Tout simplement, des pâtes assez grosses avec un trou assez gros pour que la sauce rentre dedans. D'accord.
Exactement.
Ça, c'est le principe de base.
On parlait du pesto de tomates, donc on avait des linguinés ou des spaghettines. Donc, ça va. Donc, essayez donc visualiser la sauce que vous allez préparer et puis pensez aux pâtes que vous aimez tant. Il ne faut pas les faire disparaître dans l'assiette.
Et quel type de sauce, donc, pour les spaghettis ou les linguinés?
Par exemple, des pistou, des sauces qu'on appelle très courtes, de pasta choute, un filet d'huile d'olive, des sardines, un zeste de citron, des pignons, des raisins secs.
Tiens, justement, une recette du placard Alba Pezzone avec les linguinés, des sardines en boîte à l'huile d'olive, des capres, du citron confit, des pignons. Qu'est-ce qu'on fait? Racontez-nous un peu là.
Donc, les sardines, on ouvre la boîte, donc des belles sardines à l'huile d'olive. Donc, elles sont déjà cuites, même pas besoin de les désarrêter. On les écrase légèrement à la fourchette avec l'huile donc, de la boîte. Donc, des capres qu'on aura fait dessaler, parce que pas des capres au vinaigre, donc ça n'ira pas avec la recette.
Comment on les dessale? Combien de temps
on
avant?
On les passe un quart d'heure avant, le temps. Donc, on met à cuire les pâtes et puis on fait dessaler les capres.
Alors, dans la poêle, la fameuse poêle, qu'est-ce qu'on met?
On écrase les sardines, on rajoute les capres. Donc, de l'ail écrasé juste sous la paume de la main, délicatesse à l'égard des invités. Il y en a qui les aiment et puis ça séduit leur femme et puis d'autres qui souhaitent retirer l'ail. Donc, il faut qu'on puisse le retirer. Et puis donc, le citron confit, coupé soit en petite lanière, soit en brunoise. Donc, un petit dé. On poêle, mais ça prend vraiment 5 minutes. Donc, les pâtes cuisent de l'autre côté, et on les rajoute dans la poêle et puis on
et
passe à
l'huile de cuisson, la fameuse, rappelez-nous...
La mantecatura.
Là, on fait ça quand là?
En fait, les spaghettis ou les linguines qu'on a égouttés, donc on les verse 2 minutes dans la poêle. Donc les fait sauter.
Et l'eau de cuisson, la met quand là?
À la fin de la cuisson. L'eau de cuisson aussi, ce que vous pouvez faire, c'est de ne pas trop les égoutter. Si vous avez une pastaiola avec un égouttoir, en fait, vous soulevez les pâtes et vous trimballez avec les pâtes un petit peu d'eau de cuisson et puis vous y allez à feu vif. On peut rafraîchir la recette parce que j'aime bien les recettes du placard avec des épluches de fenouil, un carpaccio de fenouil, juste assaisonné au poivre, un peu de menthe, par exemple.
Bon, oui. Professeur Boris Ancel, je rappelle que vous êtes diabétologue. Est-ce que ces linguinés, sardines en boîte à l'huile d'olive avec des capres et du citron confit, est-ce que ça fait monter l'index glycémique? Parce que l'une des idées reçues qui traîne beaucoup autour des pâtes, c'est qu'elles ont un fort index glycémique. Alors, je rappelle que l'index glycémique, l'IG, varie de 0 à 100 et qu'il reflète l'aptitude d'un aliment à augmenter la glycémie et donc le taux d'insuline dans le sang.
Alors, les pâtes, c'est de l'amidon, donc ce sont des molécules de glucose. L'amidon, c'est un enchaînement de molécules de glucose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en fonction de différents paramètres, que sont la qualité des pâtes, ce à quoi vous mangez et le niveau de cuisson, eh bien, les molécules de glucose vont plus ou moins facilement se dissocier les unes des autres de l'amidon et entrer dans le corps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les pâtes, globalement, c'est un index glycémique modérées à faibles, et plus elles seront de bonne qualité, donc premium ou de qualité, blé de qualité supérieure, plus il y aura des fibres dedans, si c'est à la...
Et puis si elles sont al dente.
Et si, oui. Plus elles sont cuites al dente, et plus vous aurez mis un peu de matière grasse et des légumes, des fibres avec, et moins l'indice glycémique sera élevé. Après, pour limiter la montée glycémique, faut limiter la quantité. Mais c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure.
Et les pâtes froides, notamment les salades de pâtes, font moins monter la glycémie?
Légèrement moins. Mais globalement, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est la qualité de la pâte et la cuisson, qui sont des éléments importants, et les accompagnements. Et encore une fois, même chez des patients diabétiques, il y a des études qui ont été faites. Oui, ça fait monter la glycémie, mais pas plus que n'importe quel aliment glucidique. Et par rapport au riz blanc, par exemple, il n'y a pas photo. Là, les pâtes seraient mieux. Vous voulez juste en une minute une vision thérapeutique? Si vous voulez, moi, énormément de patients ont des problèmes de troubles de comportement alimentaire. Et plusieurs de mes patients, alors je ne dis pas qu'il faut le faire, ce n'est pas une prescription que j'ai fait aux auditeurs aujourd'hui, mais pour vous montrer un peu comment ça peut être utilisé, des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, qui aiment les pâtes, moi j'ai dit à plusieurs personnes, vous mangez que des pâtes, finalement, comme vous aimez, et simplement avec ça, vous travaillez sur vos sensations alimentaires, et ça les aide à finalement réduire certains troubles alimentaires.
J'aimerais terminer avec Henri-Claude. Henri-Claude, bonjour. Vous intervenez en toute fin d'émission, c'est vous la conclusion de cette émission consacrée aux pâtes. Racontez-nous votre souvenir d'enfance.
Alors, c'est un souvenir d'enfance. Quand on est petit et qu'on est un peu fatigué, un peu fébrile, un petit peu malade, on n'a pas très faim, mais il faut quand même se nourrir. Et ma grand-mère, à ce moment-là, faisait une espèce de bouillon de poule dans lequel elle mettait des vermicelles. Et quand on devait manger, il y avait vraiment une telle quantité de vermicelles que ça ressemblait plus à un plat de pâtes qu'à véritablement une soupe. Et donc, je ne vais pas dire qu'on se régalait à l'époque. Et depuis, je peux vous garantir, j'ai 72 ans aujourd'hui, il m'arrive, alors quand je suis un peu dans cet état fébrile, de refaire la même chose. Mais même parfois, sans raison, parce que je trouve ça absolument délicieux.
Surtout sans raison.
Je fais exactement la même chose, je mets beaucoup de vermicelle. Et je me régale, et à ce moment-là, j'ai 8 ans.
Et vous avez bien raison, mon cher Henri-Claude. Merci d'être intervenu dans l'émission. Bonne journée à vous. Juste pour terminer, Alba Petzon, pâte sèche ou pâte fraîche? C'est un match absurde, peut-être. Si on les fait soi-même, les pâtes fraîches, c'est génial. Mais les pâtes fraîches du commerce, bon.
Oui, moi, je dirais plutôt pâte sèche. C'est plus facile à faire, comme ça. Si je devais n'en choisir qu'une, mais sinon, bien sûr, les deux, pour varier les plaisirs.
Merci beaucoup. Merci, Alba Petzon. Je conseille tous vos livres, notamment votre livre In Cucina, qui est vraiment merveilleux, qui est publié chez Hachette. Merci Éric Birloez d'être venu dans cette émission, intervenant régulier. Merci professeur Boris Ancel, on vous retrouve bientôt dans cette émission
lundi
pour votre chronique. Merci Daniel Gerkens. Le spécial Italie de Elle à table est disponible en kiosque et sur l'appli Elle à table. Et merci Jérémy Pelletier.
Rendez-vous face, un podcast France Inter.